Octave Mirbeau, des artistes, sur les commissions. Je ne voudrais pas revenir sur l'incident vraiment attristant et scandaleux d'une commission refusant à M. Auguste Rodin son admirable monument de Victor Hugo. Au train dont vont les choses aujourd'hui, cette affaire est, à cette heure, en partie oubliée du public, qui d'ailleurs ne l'a peut-être jamais connue. Mais on en peut tirer quelques considérations générales et particulières d'un caractère malheureusement tout platonique. Elles n'empêcheront dans l'avenir aucun crime de ce genre, car il est dit quelque part que, dans les sociétés bourgeoises, l'artiste s'agite et que les commissions le mènent. M. Auguste Rodin, dont l'amitié m'est chère, me pardonnera donc de ramener l'attention, pendant la fugitive minute que dure la réalité d'un article de journal, sur cette aventure invraisemblable qu'il a été le premier à accepter avec une bonne grâce hautaine et supérieure. Interrogé par un ami indigné sur l'effet moral que lui avait causé une résolution si inattendue, il répondit par ces mots qui pourraient servir d'épigraphe à ces lignes « Travaillons, travaillons, le reste n'est rien. » Jules II, visitant la chapelle Sixtine, tandis que Michel-Ange y travaillait à ses immortelles fresques, se permit un jour des observations critiques sur la manière dont le grand et farouche artiste interprétait le jugement dernier, et il lui demanda, sur un ton impératif, des retouches. Michel-Ange s'emporta et pria le pape de se retirer aussitôt. « Est-ce que je vous chicane sur vos bulles ? » dit-il. Il lui enjoignit même, sous la menace de démonter ses échafauds, il lui enjoignit de ne plus remettre les pieds dans la chapelle, jamais, tant que les travaux n'en seraient pas achevés. Jules II comprit qu'il avait commis une action déplacée et que cela ne le regardait pas. Il obéit. Il est vrai que ce n'était qu'un pape. Aujourd'hui, l'on est parvenu à suffrage universaliser l'art comme le reste. Un artiste, dans un temps de liberté, n'est plus libre de travailler suivant son génie. Il doit obéir aux commissions, aux sous-commissions, aux subdivisions des sous-commissions, et rien ne se fait que par elles. À l'intelligence personnelle de celui qu'elles ont élu pour exécuter un monument, une statue, un plafond, une fresque murale, à l'originale conception du statuaire ou du peintre, à son savoir, à sa volonté, elle substitue les plates incompréhensions, les idées vulgaires, l'autorité fat et grotesque d'un groupe d'incapables et d'intrigants qui s'érigent en juge suprême de choses dont ils n'entendent pas le premier mot. Ce n'est pas seulement un choix souvent détestable qu'elles font, ces commissions. C'est un mandat impératif qu'elles donnent. Elles sont infaillibles, elles sont inviolables dans toute la puissance de leur imbécilité collective, dans le despotisme de leurs ignorances réunies. Elles surveillent, ordonnent, corrigent, professent, blâment et refusent, avec une inaltérable impudence, avec une incompétence tellement définitive qu'on se demande si c'est vraiment la mauvaise foi qui les guide ou bien la naïveté. La part est égale, j'imagine, entre ces deux sentiments. Quoi qu'il en soit, il ne serait plus possible, avec nos mœurs parlementaires, de traiter une commission comme Michel-Ange traitait jadis Jules II. Et l'artiste qui se permettrait de lui fermer la porte de son atelier, d'en appeler de cette tyrannie bourgeoise à sa propre indépendance, serait un artiste à jamais perdu. M. Roger Ballu, M. Armand Gouzien, M. Antonin Proust, M. Paul Mans, etc., sans qui il n'est pas de bonne commission, remplacent les Borgia et les Léon X, et ils sont autrement puissants et absolutistes. Défense est faite par eux de s'élever au-dessus d'un idéal de bureau ou d'un rêve d'antichambre. Tout ce qui est vivant et grand, tout ce qui s'efforce à briser le moule de l'éternelle routine, tout ce qui porte en soi la marque de la flamme sacrée, tout cela est persécuté, banni, rejeté, hors les distributions des faveurs officielles et des commandes d'État. C'est pourquoi, dans nos jardins publics et sur les places des villes, sur les murs de nos édifices nationaux, au plafond de nos palais, nous ne voyons que des sculptures hideuses et de déshonorantes peintures qui reflètent non point la pensée individuelle de l'artiste qui les créa, mais la collectivité grossière des ratés haineux et des fonctionnaires abrutis qui les admirent et les voulurent tels. À l'exception de Barry, de Carpeau, de Puvis de Chavannes et d'Auguste Rodin, dont on voit çà et là, non sans étonnement, fulgurer les lumineuses traces parmi l'horreur moderne des monuments nationaux et le morne ennui des jardins publics, on ne se heurte partout qu'aux impuissances, aux avortements, aux laideurs consacrées par les commissions. C'est l'âme organisatrice de M. Roger Balut qui gonfle les corps de pierre, circule à travers le bronze et le marbre et secoue sur la claire légèreté des pastels la poussière noire des bureaux de la rue de Valois. C'est l'intrépide pensée de M. Antonin Proust qui bouillonne au fond des tubes de couleur, gambade sur les palettes et sourit à la pointe complaisante des pinceaux. C'est l'esprit de M. Paul Mantz qui plane au plafond, hante le crépi des fresques, et M. Kampfen est partout dans l'œuvre contemporaine, comme Dieu dans l'univers. Parmi les membres de la commission qui assument l'étrange et coutumière responsabilité de repousser un chef-d'œuvre, une œuvre de pur et grand génie, outre l'inquiétant M. Dalou, se trouvait M. Kampfen. Il y en avait beaucoup d'autres, mais je prends M. Kampfen comme étalon de la médiocrité tyrannique de cette réunion d'hommes s'acharnant sur une œuvre d'art. Le cas de M. Dalou est tout autre, M. Dalou ayant agi non pas en artiste, mais en confrère. M. Kampfen, lui, c'est en artiste qu'il agit dans cette occasion. Mis en présence du monument de M. Auguste Rodin, il déclara tout de suite, et sans la moindre hésitation, que cela ne se silhouettait pas assez. « Pardon ?» aurait répondu M. Rodin. « C'est précisément ce que j'ai voulu faire. Le silhouettage ne convient pas du tout à l'esprit de cette œuvre. Ce que j'ai tenté, c'est une sensation de grand mystère et de grande sérénité qu'aurait certainement troublé des lignes heurtées et des déchiquetages trop violents. Loin de chercher à silhouetter ce monument, j'ai cherché au contraire à le bloquer. » M. Kampfen, pour comprendre l'idée de grand poète qu'avait eu ce grand sculpteur, n'avait qu'à regarder ce poème vivant de vie sublime et de rêve réalisé. Mais pour regarder ces choses et en ressentir le frisson qu'elles donnent, il faut non seulement avoir des yeux, mais il faut posséder une âme qui puisse, sous la beauté apparente, trouver la beauté cachée par laquelle s'ennoblissent aussi bien les figures de chair et les figures de marbre. Et quand on a une âme, on n'est pas d'une commission. C'était, dans une ombre de mystère, la résurrection humaine, la resplendissante apparition du poète. Et il était là, avec son œil déchiré, ses oreilles de faune chanteur, et son front où s'illuminèrent la pensée d'un siècle et l'amour d'un monde. Autour de lui, des sirènes douces, amoureuses et tragiques, lui chantaient ce que lui-même chanta à l'univers conquis et charmé. L'amour, la pitié, la justice, la souffrance. Et il les écoutait chanter, tout enivré de ses harmonies et de ses musiques qui, dans l'ombre de mystère, le baignaient de clarté radieuse et de presque surnaturelle lumière. Mais M. Kampfen voulait que ça se silhouettât. Et le silhouettage pour M. Kampfen était ceci. Victor Hugo, avec la traditionnelle tête d'orage, et le vent de Guernesey dans ses cheveux, posé de trois quarts sur un rocher et burinant un verre de bronze sur un feuillet de bronze à demi déroulé, avec une plume de bronze qui se brise sous l'effort de l'inspiration. M. Kampfen n'aurait pas, non plus, été l'ennemi, pour compléter le silhouettage, d'une allégorie renaissance et pendulesque, une déesse drapée à l'antique, étoilée comme la réclame de la bière de la comète et montrant d'un doigt indicateur à Victor Hugo l'escalier A de l'immortalité. Ah, cet homme est plein d'idées généreuses et sublimes. Or, qu'est donc M. Kampfen pour obliger un artiste de la valeur de M. Rodin à recommencer une œuvre dont il ne peut accuser que soi-même de ne l'avoir pas comprise? M. Kampfen dirige les musées nationaux. Il habite le Louvre comme Charles IX, élève ses enfants dans le berceau d'Henri IV, s'entoure familièrement de meubles historiques d'un prix inestimable et, de temps en temps, met le feu à tout cela. Voilà tout. Il paraît que c'est un homme excellent et le plus inoffensif du monde et né pour être fonctionnaire. Il essaya bien de contrarier cette vocation impérieuse et originelle et à la détourner dans les lettres. Humblement, il découpa dans le temps, trois fois par semaine, quelques petites nouvelles artistiques, et il arriva que sa vocation se fortifiait chaque jour au lieu de s'atténuer. C'est là qu'il apprit comment devait se silhouetter un bloc de marbre. On le nomma inspecteur des beaux-arts, et il n'inspecta pas. Directeur des beaux-arts, et il ne dirigea rien. Tels sont les titres que possède M. Kampfen à diriger les musées nationaux et à faire partie, par conséquent, des commissions, de toutes les commissions. N'est-ce point un véritable scandale et une révoltante anomalie de mettre un artiste sous la surveillance et la dépendance d'hommes qui lui sont notoirement inférieurs, d'emprisonner son activité intellectuelle, son génie créateur, dans l'opinion de gens qui sont d'une commission parce que les uns sont critiques d'art, les autres inspecteurs des beaux-arts ou directeurs de musées, c'est-à-dire les titulaires de fonctions chimériques et indéfinissables, uniquement créés pour ceux-là seuls qui n'ont rien pu faire dans la vie, ni un livre, ni un vaudeville, ni une pièce de verre, ni un tableau, ni une cantate, ni une maison, ni un article de journal, ni une paire de bottes. Je me suis borné à montrer un des côtés du rôle destructeur des commissions dans les beaux-arts. Ce rôle est le même partout, à tous les degrés de la vie politique et sociale. Que de bien, que de progrès, que de justice, peut-être, dorment dans l'inviolable hypogée des tiroirs et le tombeau des dossiers. Les pauvres gens demandent, de plus en plus, un peu de bonheur. Peut-être que ce peu de bonheur est enfoui sous des amas d'inutiles paperasses, dans les commissions parlementaires et autres, où le cri de douleur de l'humanité est mieux et plus sûrement étouffé que dans les palais des anciens rois. Mais tout se tient dans notre système politique, et les commissions vivront autant que lui. Pour toucher à celle-ci, il faudrait d'abord abattre celui-là, ce qui me paraît difficile quand un peuple est occupé aux paris mutuels et aux courses de taureaux. Le Figaro, 10 août 1890.